Ganimard paraissait quelque peu interloqué. Isidore le salua très bas, comme un confrère que l'on estime à sa valeur, et se tournant vers M. Filleul,
« Il paraît, monsieur le juge d'instruction, que vous avez reçu de bons renseignements sur moi ?»«
Parfait.
D'abord, vous étiez en effet à Vol-les-Roses au moment où Mademoiselle de Saint-Véran a cru vous voir dans le chemin creux. Nous établirons, je n'en doute pas, l'identité de votre sosie. Ensuite, vous êtes bel et bien Isidore Boutrelet, élève de rhétorique et même. Excellent élève, laborieux et de conduite exemplaire. » Votre père habitant la province, vous sortez une fois par mois chez son correspondant, M. Bernot, lequel ne tarit pas d'éloges à votre endroit.
De sorte que...
De sorte que vous êtes libre.
Absolument libre.
Absolument. Ah. Toutefois, j'y mets une toute petite condition. Vous comprenez que je ne puis relâcher un monsieur qui administre des narcotiques, qui s'évade par les fenêtres et que l'on prend ensuite en flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privées, que je ne le puis sans une compensation.
J'attends.
Eh bien, nous allons reprendre notre entretien interrompu et vous allez me dire où vous en êtes de vos recherches. En 2 jours de liberté, vous avez dû les mener très loin.
Et comme Ganimard s'apprêtait à sortir, avec une affectation de dédain pour ce genre d'exercice, le juge s'écria
« Mais pas du tout, monsieur l'inspecteur, votre place est ici. Je vous assure que monsieur Isidore Boutrelet vaut la peine qu'on l'écoute. Monsieur Isidore Boutrelet, d'après mes renseignements, s'est taillé au lycée Janson de Sailly une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu. » Et ses condisciples, m'a-t-on dit, le considèrent comme votre émule, comme le rival d'Herlock Sholmès.
En vérité,
fit Ganimard ironique.
Parfaitement. L'un d'eux m'a écrit « Si Boutrelet déclare qu'il sait, il faut le croire, et ce qu'il dira, ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité. Monsieur Isidore Boutrelet, voici le moment ou jamais de justifier la confiance de vos camarades. » « Je vous en conjure, donnez-nous l'expression exacte de la vérité. »
Isidore écoutait en souriant, et il répondit
« Monsieur le juge d'instruction, vous êtes cruel. Vous vous moquez de pauvres collégiens qui se divertissent comme ils peuvent. Vous avez bien raison d'ailleurs, et je ne vous fournirai pas d'autre motif de me railler. »«
C'est que vous ne savez rien, monsieur Isidore Boutrelet. » »«
J'avoue, en effet... » Très humblement, que je ne sais rien, car je n'appelle pas savoir quelque chose la découverte de 2 ou 3 points plus précis qui n'ont pu, du reste, j'en suis sûr, vous échapper.
Par exemple ?
Par exemple, l'objet du vol.
Ah, décidément, l'objet du vol vous est connu.
Comme à vous, je n'en doute pas. C'est même la première chose que j'ai étudiée. La tâche me paraissait plus facile.
Plus facile, vraiment ?
Mon Dieu, oui. Il s'agit tout au plus de faire un raisonnement.
Pas davantage.
Pas davantage.
Et ce raisonnement ?
Le voici, dépouillé de tout commentaire. D'une part, il y a eu vol, puisque ces 2 demoiselles sont d'accord, et qu'elles ont réellement vu 2 hommes qui s'enfuyaient avec des objets.
Il y a eu vol.
D'autre part, rien n'a disparu, puisque Monsieur de Gesvres l'affirme, et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir.
Rien n'a disparu.
De ces 2 constatations, il résulte inévitablement cette conséquence. Du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu, c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique. Il se peut, je m'empresse de le dire, que ce raisonnement ne soit pas ratifié par les faits. Mais je prétends que c'est le premier qui doit s'offrir à nous et qu'on a le droit de l'écarter qu'après un examen sérieux.
En effet...
murmura le juge d'instruction, visiblement intéressé.
Or, qu'y avait-il dans ce salon qui put attirer la convoitise des cambrioleurs ? 2 choses. La tapisserie d'abord. Ce ne peut être cela. Une tapisserie ancienne ne s'imite pas, et la supercherie vous eût sauté aux yeux. Restaient les 4 Rubens.
Que dites-vous ?
Je dis que les 4 Rubens accrochés à ce mur sont faux.
Impossible.
Ils sont faux, a priori, fatalement, et sans appel.
Je vous répète que c'est impossible.
Il y a bientôt un an, monsieur le juge d'instruction, un jeune homme qui se faisait appeler Charpenet est venu au château d'Ambrumésy et a demandé la permission de copier les tableaux de Rubens. Cette permission lui fut accordée par monsieur de Gesvres. Chaque jour, durant 5 mois, du matin jusqu'au soir, Charpenet travailla dans ce salon. Ce sont les copies qu'il a faites, cadres étoiles, qui ont pris la place des 4 grands tableaux originaux légués à monsieur de Gesvres par son oncle, le marquis de Bobadilla.
La preuve ?
Je n'ai pas de preuve à donner. Un tableau est faux parce qu'il est faux. Et j'estime qu'il n'est même pas besoin d'examiner cela.
Monsieur Filleul et Ganimard se regardaient sans dissimuler leur étonnement. L'inspecteur ne songeait plus à se retirer. À la fin, le juge d'instruction murmura
« Il faudrait avoir l'avis de monsieur de Gesvres ».
Et Ganimard approuva.
« Il faudrait avoir son avis ».
Et ils donnèrent l'ordre qu'on pria le comte de venir au salon. C'était une véritable victoire que remportait le jeune rhétoricien. Contraindre 2 hommes de métier, 2 professionnels comme monsieur Filleul et Ganimard, à faire état de ces hypothèses, il y avait là un hommage dont tout autre se fût enorgueilli. Mais Beautrelet paraissait insensible à ces petites satisfactions d'amour-propre, et toujours souriant, sans la moindre ironie, il attendait. Monsieur de Gesvres entra.
« Monsieur le comte, la suite de notre enquête nous met en face d'une éventualité tout à fait imprévue et que nous vous soumettons sous toute réserve. Il se pourrait, je dis, il se pourrait, que les cambrioleurs, en s'introduisant ici, aient eu pour but de dérober vos 4 Rubens, ou du moins de les remplacer par 4 copies. Copie qu'eût exécuté, il y a un an, un peintre du nom de Charpenet. Voulez-vous examiner ces tableaux et nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques ?
Le comte parut réprimer un mouvement de contrariété. Observa Beautrelet, puis monsieur Filleul, et répondit sans prendre la peine de s'approcher des tableaux.
« J'espérais, monsieur le juge d'instruction, que la vérité resterait ignorée. Puisqu'il en est autrement, je n'hésite pas à le déclarer. Ces 4 tableaux sont faux. »
« Vous le saviez donc ?»«
Dès la première heure. »
« Que ne le disiez-vous ?»«
Le possesseur d'un objet n'est jamais pressé de dire que cet objet n'est pas ou n'est plus authentique. »
« Cependant, c'était le seul moyen de les retrouver. »
« Il y en avait un meilleur. »
« Lequel ?»
Celui de ne pas ébruiter le secret, de ne pas effaroucher mes voleurs et de leur proposer le rachat des tableaux dont ils doivent être quelque peu embarrassés.
Comment communiquer avec eux ?
Le comte ne répondant pas, ce fut Isidore qui riposta.
Par une note insérée dans les journaux. Cette petite note, publiée par le journal et le matin, est ainsi conçue. Suis disposé à racheter les tableaux.
Le comte approuva d'un signe de tête. Une fois encore, le jeune homme en remontrait à ses aînés. Monsieur Filleul fut beau joueur.
« Décidément, cher monsieur, je commence à croire que vos camarades n'ont pas tout à fait tort. Sapristi, quel coup d'œil! Quelle intuition! Si cela continue, monsieur Ganimard et moi, nous n'aurons plus rien à faire. »
« Oh, tout cela n'était guère compliqué !»
« Le reste l'est davantage, voulez-vous dire ? Je me rappelle en effet que lors de notre première rencontre, vous aviez l'air d'en savoir plus long. Voyons, autant que je m'en souvienne, vous affirmiez que le nom du meurtrier vous était connu. »«
En effet. » »«
Qui donc a tué Jean Daval ? Cet homme est-il vivant ? Où se cache-t-il ? » ?»«
Il y a un malentendu entre nous, monsieur le juge. Ou plutôt... « un malentendu entre vous et la réalité des faits, et cela depuis le début. Le meurtrier et le fugitif sont 2 individus distincts. »«
Que dites-vous ? L'homme que M. de Gesvres a vu dans le boudoir et contre lequel il a lutté, l'homme que ces demoiselles ont vu dans le salon et sur lequel Mlle de Saint-Véran a tiré, l'homme qui est tombé dans le parc et que nous cherchons, cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval ?
Non.
Avez-vous découvert les traces d'un troisième complice qui aurait disparu avant l'arrivée de ces demoiselles?
Non.
Alors je ne comprends plus. Qui donc est le meurtrier de Jean Daval?
Jean Daval a été tué par...
Beautrelet s'interrompit, demeura pensif un instant et reprit.
Mais auparavant, il faut que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons mêmes du meurtre. Sans quoi, mon accusation vous semblerait monstrueuse. Et elle ne l'est pas. Ah non, elle ne l'est pas. Il y a un détail qui n'a pas été remarqué et qui, cependant, a la plus grande importance. C'est que Jean Daval, au moment où il fut frappé, était vêtu de tous ses vêtements, chaussé de ses bottines de marche, bref, habillé comme on l'est en plein jour. Or, le crime a été commis à 4 heures du matin.
J'ai relevé cette bizarrerie. Monsieur de Gesvres m'a répondu que Daval passait une partie de ses nuits à travailler.
Les domestiques disent au contraire qu'il se couchait régulièrement de très bonne heure. Mais admettons qu'il fût debout. Pourquoi a-t-il défait son lit de manière à faire croire qu'il était couché? Et s'il était couché, pourquoi, en entendant du bruit, a-t-il pris la peine de s'habiller des pieds à la tête au lieu de se vêtir sommairement? J'ai visité sa chambre le premier jour, tandis que vous déjeuniez. Ses pantoufles étaient au pied de son lit. Qui l'empêcha de les mettre plutôt que de chausser ses lourdes bottines ferrées?
Jusqu'ici, je ne vois pas...
Et jusqu'ici, en effet, vous ne pouvez voir que des anomalies. Elles m'ont paru cependant beaucoup plus suspectes quand j'ai appris que le peintre Charpenet, le copiste des Rubens, avait été présenté au comte par Jean Daval lui-même.
Eh bien?
Eh bien, de là à conclure que Jean Daval et Charpenet étaient complices, il n'y a qu'un pas. Ce pas, je l'avais franchi lors de notre conversation.
Un peu vite, il me semble.
En effet, il fallait une preuve matérielle. Or, j'avais découvert dans la chambre de Daval, sur une des feuilles du sous-main où il écrivait, cette adresse, qui s'y trouve encore d'ailleurs, décalquée à l'envers par le buvard. Monsieur A.L.N., bureau 45, Paris. Le lendemain, on découvrit que le télégramme envoyé de Saint-Nicolas par le pseudo-chauffeur portait cette même adresse, A.L.N., bureau 45. La preuve matérielle existait. Jean Daval correspondait avec la bande qui avait organisé l'enlèvement des tableaux.
Monsieur Filleul ne souleva aucune objection.
Soit, la complicité est établie. Et vous en concluez?
Ceci d'abord, c'est que ce n'est point le fugitif qui a tué Jean Daval, puisque Jean Daval était son complice.
Alors?
Monsieur le juge d'instruction, rappelez-vous la première phrase que prononça Monsieur de Gesvres lorsqu'il se réveilla de son évanouissement. La phrase rapportée par Mademoiselle de Gesvres est au procès-verbal « Je ne suis pas blessé, et Daval, est-ce qu'il vit? Le couteau. Et je vous prie de la rapprocher de cette partie de son récit, également consignée au procès-verbal, où Monsieur de Gesvres raconte l'agression. L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la nuque. Comment Monsieur de Gesvres, qui était évanoui, pouvait-il savoir en se réveillant que Daval avait été frappé par un couteau?